Ici, c'est pour illustrer, c'est évidemment un vitrail. Je vais vous parler du lieu, mais tout de suite, vous vous rappelez de cet épisode qui va juste précéder l'épisode qui donne l'occasion de ce 8e centenaire. C'est le soir où Claire s'enfuit chez ses parents et va à la Porcioncule et est faite pénitente par François. Eh bien, ce qui avait marqué finalement le top du départ, c'est cet épisode du matin des rameaux où, alors que les jeunes filles qui entourent Claire se précipitent sur les palmes, vous savez, c'est Thomas Celano qui nous le raconte, Claire reste seule, ne se précipite pas, et c'est l'évêque qui va venir lui présenter la palme. Donc c'est un épisode qui précède finalement l'arrivée à la Porcioncule. Alors ici, je vous ai choisi ce vitrail parce que c'est un ensemble d'iconographie clarienne qui se trouve à Königsfelden. Königsfelden, se situe en Suisse alémanique, c'est tout près de la frontière française. C'est un monastère de Clarisse et un couvent de frères, une espèce de communauté double qui a été fondée au tout début du XIVe siècle, qui reste absolument qui est absolument authentique, enfin je veux dire intact, avec les bâtiments, avec l'église, et dedans il y a ces vitraux qui datent de la première moitié du XIVe siècle, les années 1330. Les spécialistes vous diraient qu'il y a des relations avec le vitrail strasbourgeois de l'époque. C'est un peu les mêmes vitraux qu'à la cathédrale de Strasbourg, hein. Alors vous avez, on ne voit là qu'une petite partie, c'est inscrit dans un cercle, hein, c'est inscrit dans un cercle, et vous avez toutes les scènes, beaucoup de scènes de la vie de Claire qui sont reproduites dans ces vitraux. Vous avez aussi des scènes de la vie de François, vous avez un merveilleux Antoine de Padoue aussi, qui est très célèbre, qui a été souvent reproduit. Je crois qu'il y a des couvertures célèbres de livres aussi qui ont reproduit tel ou tel de ces vitraux. Les historiens étudient beaucoup là aujourd'hui ce que pouvaient voir finalement les Clarisses lorsqu'elles étaient dans leur cœur. C'est une manière de... Bon, vous savez, il existe la clôture, les sœurs dans leur église sont dans un cœur bien particulier, et c'est toujours très intéressant quand on regarde une église de Clarisse de se demander où se trouvait le cœur démonial, et savoir finalement quelle était la nourriture. Leur nourriture, alors leur nourriture, ça pouvait être une nourriture intellectuelle par des livres, il y a l'office, il y a la prière, mais ça aussi peut être une nourriture par la beauté, par l'art. Et on s'aperçoit que dans un certain nombre de monastères anciens du Moyen-Âge qui ont été conservés, vous avez des décorations par les fresques, et là, ce sont des décorations par le vitrail. C'est-à-dire que les moniales avaient accès, pouvaient voir ces vitraux. Alors, on va voir exactement la même scène, mais dans un tout autre contexte. Vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu ces miniatures qui ont été éditées il y a quelques années par l'Institut historique capucin de Rome. Là, on est un siècle après, on est dans la deuxième moitié du 15e siècle, et c'est une moniale Clarisse qui s'appelle Sibylle von Bondorf, hein, on a son nom, Sibylla von Bondorf, qui à la mi-temps du 15e siècle a illustré toute la vie de Claire. C'est un style à la fois extrêmement naïf. Là vous lisez, à chaque fois il y a aussi des inscriptions. Clara Santa Clara sponsa Christi, hein, Sainte Claire épouse du Christ, et on a exactement, donc dans un tout autre style, la même scène. Et on va passer à la scène suivante, qui elle est une scène beaucoup moins courante dans l'iconographie clarienne. Là cette fois-ci, c'est Claire qui demande au pape de canoniser François d'Assise. C'est une scène assez curieuse. Je vous lis l'inscription, elle est très facile à traduire. C'est Domine Rogo ut canonizetis illum pium et justum est. Seigneur, donc elle s'adresse au pape, je demande que tu canonises, que tu le canonises, cela est juste et pieux. Hein, voilà. Donc ça c'est l'inscription. Alors là je crois que c'est une scène beaucoup plus originale de l'iconographie clarienne. Ouais. On pourrait passer, je vous donne à chaque fois que des extraits, tout le volume de ces illustrations par cette Clarisse du 15e siècle de la région de Strasbourg, là aussi, elle a vécu sans doute au monastère des Clarisses de Strasbourg, présente Claire comme une autre Marie. Vous savez qu'on a toute la tradition d'un François comme un autre Christ, hein, et là, par bien des aspects des représentations, Claire est présentée comme une autre Marie. On passe à la suivante. Alors là, c'est d'un tout autre contexte. C'est une scène qui est souvent reproduite, c'est l'adoration au berger en présence de François et de Claire. Là, c'est un peintre italien dont on fête cette année un anniversaire. Je vais vous dire exactement son nom, je ne le connais pas par cœur. Il s'appelle Giovanni Francesco Romanelli. Il est mort, c'est un peintre italien, il est mort en 1662. Ce tableau se trouve au musée des Beaux-Arts de Rouen, mais ce qui est intéressant, c'est sa provenance. Vous savez que à partir de la séparation anglicane, du schisme anglican, les catholiques ont eu du mal à vivre en Angleterre, et il y a eu toute une espèce de base en France et dans les Pays-Bas, des bases de couvents et de monastères qui étaient là un peu pour susciter des vocations anglaises, les faire vivre en France, et ensuite éventuellement les renvoyer en Angleterre, puisque ces moments de persécution, il y avait des moments aussi d'accalmie où on pouvait refonder des petites communautés. C'est pour ça que du côté de Rouen, du côté de Douai, du côté de Gravelines, vous avez eu plein de communautés. Alors ça peut être des jésuites anglais, ça peut être des bénédictins anglais, et vous avez eu des Clarisses anglaises, plusieurs monastères de Clarisses anglaises en France au 16e, au 17e et jusqu'à la Révolution française, hein. Et c'est au moment de la Révolution française que les révolutionnaires français leur ont dit de repartir en Angleterre, hein. Et là, ce tableau ornait le maître-autel du monastère des Clarisses anglaises de Rouen. Donc vous voyez, c'est intéressant, et ça montre aussi les liens, je ne vais pas rester trop, mais on sait un peu comment a été commandité ce tableau. Ça montre les liens finalement que certaines grandes familles anglaises qui étaient restées catholiques et qui envoyaient leurs jeunes devenir religieux soit en France, soit aux Pays-Bas, pouvaient avoir des liens aussi avec les Italiens, les peintres italiens. Bon, on ne va pas rester trop longtemps, mais c'est un tableau extrêmement fort au niveau de la construction. Là, vous avez une scène, alors là, qui est extrêmement classique, hein, qu'on connaît sous diverses formes. C'est la fameuse scène où Claire, avec ses sœurs, va arrêter l'invasion des Sarrasins, l'attaque des Sarrasins sur Assise. J'en profite parce que je vois que vous avez vu que sur la table ici, vous avez ce que va donner finalement en réduction cette scène. Ça va devenir l'attribut principal de Claire à la monstrance. Et en voyant ce tableau, ce petit tableau rondeau là qui est sur la table, ça me fait penser à l'autre tableau qui est juste à côté, qui représente Saint Bonaventure en capucin. Et ces tableaux ont été restaurés il n'y a pas très longtemps, et ils ont été restaurés grâce aux amis de la bibliothèque, hein, faut pas l'oublier. Quand vous souscrivez à l'association, ça permet aussi de restaurer de tels tableaux. Et Cécile nous a amené tout aujourd'hui, hein, ça a été un grand moment d'ouvrir ce tableau là, de redécouvrir ce Saint Bonaventure. C'est grâce à vous, et on vous doit vraiment un grand merci pour l'aide que vous nous apportez pour restaurer ces tableaux. Je reviens à mon tableau là, montrant Claire et puis la ville d'Assise et l'attaque des Sarrasins. C'est un tableau là qui est dû à un peintre allemand, là aussi du XVIIe siècle. C'est un tableau qui se trouve aujourd'hui au monastère de Brixen. C'est un monastère qui n'est pas très loin de Trente, vous savez, la ville de l'Italie du Nord. C'est un monastère qui est très proche par son histoire du monastère de Reims. C'est-à-dire un monastère extrêmement tôt fondé, dès les années 1220-1230, hein, comme Reims. Et curieusement, exactement comme Reims, c'est par le fait même, puisque Claire n'est pas encore morte à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est le monastère Sainte-Claire, c'est un monastère qui est au départ placé sous la dédicace de Sainte-Élisabeth, hein, qui elle a été canonisée très tôt. Hein, de même que Reims, ça a été très tôt le monastère des pauvres dames de Saint-Damien de Sainte-Élisabeth. Ici, ce monastère de Brixen est placé sous la titulature de Sainte-Élisabeth de Hongrie. On passe. Alors, je reste un tout petit peu sur cette image, là encore. Enfin, c'est très intéressant du point de vue de l'iconographie, parce que vous voyez que c'est une combinaison entre le thème de la Vierge de Miséricorde, hein, avec ce grand manteau couvrant ses sœurs, et puis Claire à la monstrance. Il est évident qu'au moment du Concile de Trente, au moment où on a, vous savez, vous avez eu un décret au moment du Concile de Trente qui a essayé de réviser tout ce qui pouvait clocher un peu dans la manière de représenter les saints. Le fait que Claire soit représentée monstrance à la main, c'est-à-dire le Saint-Sacrement à la main, a posé problème. On le sait, je vais vous lire un tout petit extrait d'un texte, un traité sur les saintes images d'un auteur qui s'appelle Molanus. Ce texte a été réédité il n'y a pas très très longtemps. C'est un texte qui date des années 1580, donc après le Concile de Trente. Et voici ce que dit. Alors, ce Molanus, il traite saint par saint, et il dit à chaque fois, est-ce qu'on peut représenter le saint de telle manière? Est-ce qu'on a droit de faire ça? Est-ce que c'est historique ou pas? Est-ce qu'on a droit de faire ça? Voici ce qu'il dit à propos de Claire avec la monstrance. Voici, il commence quand même par dire, Molanus, par affirmer que représenter Claire avec l'Eucharistie à la main peut choquer. Hein, et c'est vrai qu'on est très habitué, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait se poser la question, une femme, Clarisse, portant le Saint-Sacrement, est-ce que ça pouvait se faire? Alors voici comment il va essayer de défendre. Il va dire quand même, ça peut se faire. Et pourquoi? Alors voilà ce qu'il donne. Il va donner deux extraits d'un texte d'un chartreux qui s'appelle Laurent Surius, hein, du XVIe siècle. Le premier extrait de ce chartreux, c'est de rappeler l'épisode des Sarrasins, donc l'épisode justement où Claire avec ses sœurs, donc de montrer, si vous voulez, qu'il y a une historicité dans le fait que Claire soit représentée avec la monstrance. Et puis alors, il dit, il y a un deuxième extrait, qui dit que Claire, pendant sa vie, a confectionné plus de 50 paires de corporaux. Vous savez, les corporaux, c'est ces linges sacrés qui touchent le corps et le sang, le corps du Christ. Hein. Et donc, elle a confectionné plus de 50 paires de corporaux qu'elle a envoyés par Mont et par Vaux aux différentes églises d'Assise. Molanus conclut, ce qui suffit à montrer quel esprit de dévotion Claire manifestait envers le Saint-Sacrement, le sacrement d'Eucharistie. De la même manière, le bienheureux chérubin de Spolète, de l'ordre des frères mineurs, enterré à Assise, est représenté avec le calice et l'hostie en raison de sa profonde dévotion à l'adorable sacrement. Sous-entendu, hein, ça c'est moi qui le rajoute, finalement, que le lecteur se rassure, cette représentation de Claire témoigne simplement d'une extrême dévotion de Claire envers l'Eucharistie. Donc vous voyez, au moment du Concile de Trente, quel type de questions cette représentation a pu poser. Alors, je signale où se trouve ce tableau. Ce tableau qui date du XVIIe siècle se trouve chez les Clarisses d'Alençon, et c'est un tableau qui provient de l'Ave Maria de Paris. C'est un tableau qui a été emmené après la Révolution, au moment où les sœurs se sont dit « on n'arrivera pas à recréer l'Ave Maria de Paris à Paris », eh bien, ils ont ramené des tableaux, des archives, ce qui fait que Alençon aujourd'hui est le lieu de mémoire de ce monastère. Vous remarquerez deux choses. Vous remarquerez qu'il y a des sœurs qui ont des voiles blancs et d'autres qui ont des voiles noirs. Ne croyez pas que les sœurs qui ont des voiles blancs soient des sœurs converses. Ça n'existait pas à l'Ave Maria de Paris. Ce sont simplement des novices. Et les textes nous prouvent qu'il y a toujours eu, dans ce monastère tout près, dans le Marais, il y a toujours eu un petit filet de novices, même si là on peut penser que le nombre est peut-être un peu exagéré. Et d'autre part, vous remarquez que les sœurs sont complètement pieds nus, et tous les témoignages que l'on a pendant tout l'Ancien Régime, que ce soit des témoignages de l'intérieur ou de l'extérieur, en particulier des gens qui éditent des guides de Paris, vous savez, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a plein de guides de Paris. Et qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois à propos des sœurs Clarisses de l'Ave Maria ? Elles marchent pieds nus, plate terre. Elles sont tout le temps pieds nus. Elles étaient tout le temps pieds nus. Et vous voyez, le peintre a bien mentionné, on voit bien la paume, enfin je veux dire l'envers des pieds de nos sœurs, et il n'y a pas l'ombre d'une socque, pas l'ombre d'une sandale. Ces sœurs étaient complètement pieds nus. Voilà. Tout à l'heure, la sœur Claire-Élisabeth nous a bien dit que, juste après Claire, finalement, la règle de Claire a été très peu pratiquée par les Clarisses, et c'est surtout la règle d'Urbain IV et la règle de Longchamp, qui sont deux règles différentes, qui ont été pratiquées par les monastères. Et ces règles d'Urbain IV et de Longchamp ont pu permettre aux sœurs de vivre un certain type de vie religieuse qui permettait d'avoir de grands monastères, d'assez grands monastères avec des bâtiments importants. Là, je vous signale, on est au Portugal, c'est le monastère de Sainte-Claire de Coimbra. C'est ici où a terminé sa vie Sainte Isabelle, une grande figure de l'histoire portugaise, qui est Sainte Isabelle du Portugal, qui était l'arrière-petite-nièce d'Elisabeth de Hongrie. Isabelle, d'ailleurs, Isabelle et Elisabeth, vous savez, c'est le même prénom. Alors, ce monastère, qui est un monument national au Portugal, ce monastère a toute une histoire, parce qu'il est juste à côté d'un fleuve, et il se trouve qu'après le Moyen-Âge, très vite, l'eau a envahi tout le monastère. Et le gros problème de ces sœurs, c'est qu'elles ne pouvaient pas partir. Il y avait le tombeau de Sainte Isabelle du Portugal qui était dans l'église. Or, ils ont essayé de faire des espèces de faux plafonds dans l'église, enfin des choses très, très curieuses pour essayer de faire que l'eau soit en dessous et puis qu'elle puisse continuer à vivre. Et finalement, ils ont été obligés de déménager au XVIIe siècle. Et vous avez tout en haut, vous avez l'autre monastère où elles ont transporté le corps de Sainte Isabelle et qui est un monastère totalement baroque. Dans les années, les toutes dernières années, là, des archéologues portugais ont restauré et ont redécouvert ce qui n'était plus du tout visible, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une opération pour enlever l'eau, pour tout simplement enlever l'eau. Moi, j'ai très bien vu une fois les pompes qui essayaient de retirer toute l'eau, et on a assaini le sol, et on a retrouvé, et vous avez sous les yeux, au premier plan, vous avez l'emplacement du cloître, et on voit très très bien tout le plan du monastère, et l'église qui, elle, était restée, les pieds dans l'eau, mais qui était restée et qui a été superbement restaurée. Bon, passons, là on est à Guimarães, on est toujours au Portugal.
C'est la photo de l'affiche. Je signale
qu'aujourd'hui, c'est ce que Guimarães est capitale européenne de la culture, et l'hôtel de ville de Guimarães, c'est l'ancien monastère des Clarisses. Alors là encore, on n'est pas du tout dans la première règle, c'est toujours l'image qui suit est encore plus frappante. Regardez, cette espèce de Versailles que vous avez sous les yeux, hein, on est encore au Portugal, c'est Vila do Conde, c'est un monastère de Clarisse, hein, un monastère de Clarisse qui a été fondé au XIVe siècle. Vous avez juste à côté, je ne sais pas si vous voyez à côté de cette espèce de petit Versailles, vous avez l'église médiévale, on va la voir tout à l'heure un peu mieux, et passer les images suivantes, peut-être, on va mieux voir. Voilà, vous avez l'église qui date du XIVe siècle, hein, et puis à côté, ils se sont reconstruits un monastère. On passait un peu rapidement, là vous avez le. Alors là, ils avaient construit. Alors là, maintenant, on retourne en France. Attendez, on retourne en France. Là, on peut changer totalement, et là, on se rapproche beaucoup plus de la règle de Claire. Là, est-ce que vous savez où on se trouve, là? Là, on est à Mortagne. Mortagne au Perche, l'un des plus beaux monastères conservé en France. Vous visez l'hôpital de Mortagne-au-Perche, vous rentrez dans l'hôpital et vous avez ce petit monastère qui est entièrement conservé, qui date du XVIe siècle. Vous avez le cloître, Vous avez l'église, la chapelle, les bâtiments conventuels, tout ça est merveilleusement conservé. Continuez. Je vous disais tout à l'heure, là vous avez une coupe, c'est un dessin qui montre l'église de Mortagne au Perche. Je vous disais tout à l'heure, c'est toujours très intéressant quand vous regardez une église de Clarisse, de savoir où est situé le cœur démonial. Bon, eh bien ici, le cœur démonial, c'est une pratique qui est très souvent utilisée, en particulier dans les monastères de Colétine, c'était le cas au Puy, c'était le cas à Poligny. Eh bien, le cœur démonial est en hauteur, il est à l'étage, sur la nef des fidèles. C'est-à-dire que vous regardez, vous avez à gauche, vous avez le cœur des célébrants, hein, le cœur liturgique à gauche, vous voyez, avec les grandes baies. Et entre la porte et le gros pilier, dans lequel il y a un petit escalier, vous avez deux étages, et vous avez en bas la place pour les fidèles qui rentrent par la porte qui est sur le côté, et puis à l'étage, vous avez le cœur démonial. Le cœur démonial donnant directement dans les bâtiments conventuels. C'est ce qui explique que cette chapelle, finalement, elle n'a pas de façade. Vous voyez, elle n'a pas de façade comme habituellement sont les façades. On rentre dans cette chapelle, enfin, en tout cas, les fidèles rentrent par quelque chose de latéral. Bon. Ça, c'est toujours très intéressant. Je vous parlais tout à l'heure un peu de l'imaginaire démonial quand elles sont dans leur cœur, mais toujours à Mortagne. Là, c'est beaucoup plus simple, mais vous avez une peinture qui représente, là encore, vous voyez, Claire avec la monstrance. Et en dessous, vous avez encore, on voit très très mal, vous avez encore les stalles des sœurs. Et là, on est à l'étage, hein, à l'étage de l'église. Voilà. Là encore, c'est extrêmement modeste. Il y a beaucoup, finalement, il y a un certain nombre de monastères comme ça, de Clarisse, qui ont conservé des liens architecturaux avec leur fondation. C'est le cas du monastère d'Arras. Alors, on va passer sur les détails parce que ça a été mille fois transformé. C'était un monastère de Clarisse Colétine, mais il y a encore des traces de leur première église. Hein. Bon, passons. Là, c'est super, vous allez le regarder un peu en détail. Ici, c'est la première édition de la règle de Sainte-Claire destinée aux Capucines de Paris, tout début du XVIIe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est... Alors là, vous avez Claire, vous avez la maman de Claire, quand vous regarderez un peu en détail, vous avez Sainte-Colette complètement en bas, vous avez les sœurs Agnès, la sœur de Claire, qui est de l'autre côté de Claire, en haut. Ce qui est très intéressant, c'est que probablement, vous avez là, sous les yeux, l'image des... Comment étaient habillées, finalement, les toutes premières capucines parisiennes. Vous voyez, avec cette espèce de grand manteau, hein, qui les couvre complètement, on devait probablement reconnaître un peu ainsi les capucines de Paris.